Salut.
Bonjour, bonjour tout le monde. Pas réveillé, c'est grave. Ah.
Bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle rentrée 2017. Oui, parce qu'il y en a ce matin qui font leur rentrée.
Il y a un bon temps de rentrée là, qui sent la châtaigne, la colle Cléopâtra, le nouveau cartable avec
la petite boule dans le ventre d'angoisse.
À la fois, t'as envie de retrouver tes copains, mais en même temps, tu sais pas quel prof tu vas avoir cette année.
Ouais, t'as mi-fini les raisins, tu sais pas forcément dans quelle classe tu vas tomber, avec qui.
Bonjour, en direct de la fac, il y en a, ils ont déjà pris les bonnes habitudes, le texte comme dans le pupitre, hein, vous avez raison.
Bonjour Nazado, bonjour Eric, salut Garlando, Mickaël, Samuel, Tic Takumi, Ludo, salut Serge, salut Thibaut, salut Philippe, salut Guillaume, salut Olivier, Jean-Claude, Milka, salut Léo, salut Victor Osbig, c'est un peu loin de nous.
Alors, je vais rapprocher.
Je ne sais pas toi, mais j'ai un petit peu de mal à lire.
Alors, écarte un peu la table. Oui, j'ai du mal à lire en fait. C'est pour ça que je te laissais lire.
Salut Mathieu, salut Frédéric, salut Antoine, 029 Live. Pas la rentrée, nous
pas
dit
la
Léo.
Rentrée pour certains, mais c'est la rentrée pour
Antoine,
beaucoup d'entre vous.
Donc, bonjour de Mulhouse, et ben bonjour à toi. J'espère qu'en tout cas vous avez passé un excellent week-end de pré-rentrée, que vous n'avez pas trop la tête dans les préparatifs pour ceux que ça concerne, et que vous avez bien profité de votre dernier week-end de vacances. Et puis oui, c'est vrai, le temps n'est pas au rendez-vous, mais en tout cas on a des bons articles ce matin pour commencer la semaine du bon pied. Donc prenez votre café ou votre thé, votre jus de fruits, et puis tout en douceur, on va discuter tech ce matin.
Qu'est-ce qu'on a donc dans le cartable? Eh bien, moi, je commencerai...
On ne voit plus le chat. Alors là, je me...
Alors,
mais
va,
là, il est...
Je le lève?
Non, mais il était bien là.
Mais regarde,
il essaie de se coucher.
Regardez, il a l'air super actif là. Oh, il a la pleine forme là, le whisky.
Tu vas faire partir après.
Il a la pleine forme.
Il est étalé sur nous, entre nous.
Il est avachi, mais complètement avachi. Bref, qu'est-ce qu'on a dans le cartable? Et ben moi, je vais commencer à vous parler de Tim Cook. Et oui, Tim Cook qui domine le marché. Et oui, à tous ceux qui disent que depuis Steve Jobs, Apple ne va plus du tout, et ben ils se trompent lourdement et je vous dirai pourquoi.
Et puis, on parlera aussi de Twitter. Twitter qui fait un petit bad buzz avec la mise à jour de ses terms and conditions. Donc, c'est les
conditions d'utilisation.
Merci, les conditions d'utilisation de Twitter. Désolée, merci. Je suis contente pour traduire ça. Et en fait, on se demande un petit peu pourquoi les gens râlent. En fait, parce qu'on va voir exactement ce qui a été changé et ce qui fait râler les gens.
Et moi, je vous parlerai ensuite encore une histoire du sexisme ordinaire de la Silicon Valley, l'histoire de deux cofondatrices d'une start-up et comment leur vie a changé du jour au lendemain, le jour où elles se sont inventées un cofondateur homme.
Incroyable.
Histoire édifiante.
T'es sûr que c'était un cofondateur exactement? Parce que justement, il n'avait pas autant de pouvoir. Enfin, on verra. Je l'ai lu il y a quelques jours. Et puis moi, je parlerai aussi de Tinder. Tinder qui a fait une mise à jour de l'application en proposant une formule payante qui, a priori, a pas mal de succès, si vous n'êtes pas encore au courant, car ça a propulsé l'application au rang des apps les plus téléchargées. Et on verra de quoi il s'agit tout à l'heure.
On dit souvent que la politesse vaut de l'or, et bien au pied de la lettre, dans un KFC, vous pourrez payer maintenant avec des sourires. Le titre est un peu... Mais vous verrez, on va surtout parler de reconnaissance faciale en fait. Je dégonfle le putaclic.
Ouais, c'est voilà. Ça, ouais. Tu as eu des remords.
Voilà, j'ai eu des remords.
Et puis...
Bon... Hors connexion, vous êtes en direct. Est-ce qu'on est de retour? Est-ce que vous nous entendez 5 sur 5 ou pas?
Mais on a une mauvaise connexion là, hein. Très mauvaise.
Très mauvaise connexion. Bon, je vais basculer en 4G si vous nous entendez.
C'est marrant parce que j'ai jamais le problème quand c'est moi toute seule qui présente.
On est revenu. 5 sur 5. Bon, on nous reçoit. Si jamais on a une nouvelle coupure, on prendra le temps de basculer en 4G. Là, c'est le Wi-Fi qui déconne. Non, mais j'ai eu des problèmes hier. Ton réseau, c'est moi qui amène la poisse.
Ouais. Non, mais je me demande si c'est juste encore une fois pas un problème de saturation de connexion d'appareil, en fait. Parce que j'ai jamais le problème quand je présente toute seule.
Mais je pense que le problème vient pas du Wi-Fi, mais de ta connexion Internet.
Ah, d'accord.
Ouais, de la connexion Internet. Bon, ouais. On verra ça. Il faudra que je mette les mains dans le cambouis. Donc, je continue. Vous ne l'avez peut-être pas entendu. On va vous parler d'Instagram et du marché noir des certifications Instagram. Parce qu'il y a un marché noir assez sordide.
Oula.
Oh là là.
Ça fait pas.
Ben, c'est fait exprès.
Et puis on terminera par un article assez intéressant. Google révèle un petit peu les recherches sur comment réparer ou comment faire, donc how to. On voit dans quel pays, quelles sont les recherches les plus faites. Donc on va voir qu'est-ce que vous recherchez le plus en France, qu'est-ce que l'on recherche le plus aux États-Unis, bref un peu dans le monde. Et on a des résultats assez intéressants avec un site internet qui a été mis en place qui présente assez bien les données. Donc on parlera un petit peu de data journalisme.
On risque, vu qu'on a des problèmes de diffusion chez certains, l'image est peut-être dégradée. Hein, c'est YouTube qui décide de la résolution selon le réseau qu'il trouve. Donc, si l'image est vraiment dégradée, essayez de tuer votre app et de la ramener à la vie. Là, nous, la connexion a l'air pas trop mauvaise. Si jamais ça recoupe, on redémarrera en 4G. Voilà, pour les explications. On va pouvoir commencer, Marion, et c'est moi qui m'y colle. Puisque je vais vous parler un petit peu de Tim Cook. Tim Cook qui, mine de rien, ça fait 3 ans maintenant qu'il est à la tête d'Apple. Et Tim Cook, on le connaît finalement assez peu. Et il a fait peur à pas mal de monde. Et on entend encore beaucoup de gens dire « Oh, depuis qu'il y a Tim Cook, Apple, ça va pas bien. Ils sortent pas de nouveaux produits. Ils arrivent pas à innover. » Eh bien, vous vous trompez lourdement. Il faut savoir que Tim Cook est devenu très très riche vendredi, puisque vous savez, dans la plupart de ces grosses boîtes, il y a des bonus pour les patrons qui sont liés aux résultats. Et là, Tim Cook a touché 560 000 parts d'Apple, donc ça vaut 89,2 millions de dollars. Et en fait, c'est grâce à ses performances, parce qu'il faut savoir qu'en 3 ans, l'action Apple a gagné 81% en bourse au S&P 500. C'est le truc des boîtes tech. Donc, depuis 3 ans, en fait, Apple va très bien et continue à croître. Et le plus intéressant sur Tim Cook, c'est que tout... les nouveaux produits qui sont sortis sur Tim Cook dominent complètement leur marché. En fait, what? Mais il n'a rien sorti de nouveau, il ne domine rien du tout. Ben, si, il domine des marchés qui sont peut-être des marchés mineurs, peut-être des marchés du futur, mais qui pour l'instant sont des marchés mineurs. Par exemple, vous ne le saviez peut-être pas, mais les AirPods cartonnent absolument et ont pris 85% de l'ensemble de l'argent dépensé dans les écouteurs audio sans fil. 85% quand même. Les AirPods dont on se moquait beaucoup, hein, les cotons-tiges dans les oreilles, marchent super bien et dominent complètement le marché, écrasent complètement la concurrence. Également, dans le marché des smartwatches, ça, j'en avais un peu parlé la semaine dernière, mais l'Apple Watch a 49,6% du marché des smartwatches dans son entier et arrive juste derrière Samsung avec 11%. Une domination effectivement du marché des smartwatches. Également, le produit que Tim Cook s'apprête à lancer, le HomePod, le HomePod, les pronostics donnent le HomePod. Il y a une telle appétence et beaucoup de gens attendent le HomePod pour s'équiper d'un haut-parleur intelligent chez eux, que ça risque également d'avoir un effet sur le marché, de dominer très très rapidement Echo et Google Home. Ça, c'est des pronostics. Il n'est pas encore sorti le HomePod. Et pourtant, tout ça sont des produits plus chers que les autres. Mais encore une fois, c'est la sexiness des produits Apple, leur manière de marketer leurs produits, que ça soit du vent ou pas, hein, ça après on peut avoir des avis différents là-dessus, mais c'est un pour les actionnaires, ça montre que Tim Cook lui-même n'est pas, de toute façon il l'a jamais caché, il n'est pas comme Steve Jobs, quelqu'un qui invente des produits ou qui est un visionnaire de produits. Par contre, c'est un excellent meneur d'hommes et il arrive à stimuler ses équipes. Et que, alors, bien évidemment, il n'a pas sorti un nouvel iPhone, mais personne, il n'y a aucun nouveau marché aussi fort que le marché des smartphones. Ça, Apple ne peut pas inventer non plus un nouveau marché comme ça de l'air. Peut-être que plus tard, ils trouveront quelque chose qui viendra remplacer, parce qu'on sait que c'est un
il
des dangers pour Apple.
Il est plus businessman que créatif.
Ah oui, mais il le fait très bien. Et ce qu'on dit souvent sur Tim Cook, et moi que je pense, c'est que finalement, c'est une grande chance pour Apple. Apple a tellement changé de dimension entre le début, avec le retour de Steve Jobs, quand il a été ramené chez Apple. Et effectivement, on peut reconnaître ça à Steve Jobs, l'explosion d'Apple, ça a commencé avec l'iPod, et ça s'est terminé avec l'iPhone, l'iPad, etc. Mais quelque part, on sentait bien dans les derniers temps quand même de Steve Jobs que Apple prenait une telle dimension qu'il avait du mal. Le côté rebelle, frondeur de Steve Jobs collait mal à la dimension internationale et on va dire rayonnante d'Apple, qui est devenue la société la plus rentable au monde pendant un instant et qui est devenue vraiment internationale. Et Tim Cook a vraiment les épaules et a bien endossé ce rôle, a ouvert aussi Apple, on peut lui reconnaître ça, l'a rendu peut-être un tout petit peu plus caritatif aussi. On sait que Steve Jobs faisait pas du tout d'association caritative et Tim Cook en fait plus. Bref, il a su quand même bien reprendre Apple, qui était quand même une entreprise qui aurait pu souffrir de la perte de Steve Jobs énormément. Apple n'a plus du tout besoin d'un Steve Jobs. Bah, en tout cas, en résultat financier pour l'instant, non. C'est une société qui a conservé sa croissance, qui a conservé ses parts de marché, qui continue à susciter énormément d'excitation pour la sortie de ses produits. Donc, d'un point de vue purement financier, non, Apple s'en sort très bien sans Steve Jobs. C'est comme ça.
Qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
Après, on peut trouver qu'ils innovent pas beaucoup, ce genre de choses. Les chiffres sont là pour le démentir.
Ils vivent sur leur acquis et leur image.
Ben non, c'est justement l'article que je viens de faire. Les trois produits que Tim Cook, enfin les deux produits plus le troisième, marchent très très bien. Et c'est des secteurs qui sont prometteurs pour l'avenir. Donc on ne peut pas dire qu'ils aient manqué d'innovation.
Est-ce que Tim Cook, comme Steve Jobs, est informaticien à la base ou c'est un pur marketeur ?
C'est même pas un pur marketeur, c'est un pur industriel. La grande force, la botte secrète de Tim Cook, et c'était son job sous Steve Jobs, c'est d'organiser l'industrialisation massive de ces produits. Parce que c'est la clé de la réussite quand on est dans ces tailles de marché, c'est arriver à produire suffisamment de produits pour répondre aux demandes. Et c'est là-dessus que Tim Cook, c'est un logisticien en fait. C'est vraiment un industriel. J'ai pas vu. Le jour Apple sort un iPhone avec une licorne au dos, on pourra se dire qu'ils se sont lâchés. Ben, en même temps, on peut dire que Apple manque d'innovation, mais les autres n'ont pas fait preuve. Enfin, ce que je veux dire, sur le smartphone, personne n'a réinventé le smartphone hein, pour l'instant. Donc,
Oui, non, mais c'est marrant parce qu'il y en a qui persistent à dire qu'il n'y a pas d'innovation, etc. Et pourtant, comme tu le dis, Damien, les AirPods, c'est une vraie preuve d'innovation. Ces écouteurs sont en avance sur tous les autres. Le HomePod, il reste encore à voir. Il n'est pas encore sorti.
L'Apple Watch est pour l'instant la smartwatch la plus aboutie. Hein.
Mais les gens ont du mal hein, parce qu'il n'a pas cette image de créatif. Et en même temps, c'est vrai qu'à aucun moment il se met en avant. Il est beaucoup plus humble que Steve Jobs, ce qui plaît aussi. Hein,
il est très secret.
Rappelez-vous, on commençait à en avoir un peu marre de Steve Jobs. Et comme tu disais, l'image qu'il donnait n'était pas vraiment en accord avec l'évolution d'Apple, qui devenait beaucoup plus trop grosse, en fait, pour avoir cette image de rebelle. Mmh. Et on commençait à en avoir un petit peu marre de cette vantardise à la Steve Jobs. Et c'est pas mal d'avoir justement quelqu'un de plus mature, de plus posé.
Ça va mieux la taille d'Apple aujourd'hui. Et n'oubliez pas une chose sur l'innovation. C'est pas celui qui invente qui réussit, généralement. C'est bien beau d'innover, mais il faut savoir vendre.
Tu vois, Pascal, comme quoi c'est pas... C'est... Alors attends, je relis le... Comme quoi c'est l'entreprise qui innove et pas une seule personne. C'est ça, oui, tu as bien résumé. C'est-à-dire qu'il sait s'entourer des bonnes personnes. Il a su les trouver, les garder, leur donner un contexte de travail qui favorise l'innovation et le développement de ces produits-là aussi. C'est pas rien. Il y en a qui vont dire « Ah, mais ça existait déjà du temps de Steve Jobs ». Attention, hein, il ne faut pas non plus, ne serait-ce que maintenir et garder les bons éléments, embaucher les nouvelles personnes qui vont redynamiser l'équipe, etc., et entretenir ce climat-là, c'est pas un job facile. Hein.
Si leurs keynotes sont devenues ennuyeuses, on en reparlera bientôt, puisque c'est bientôt la keynote, mais si les keynotes sont devenues ennuyeuses, c'est peut-être aussi parce qu'on sait tout avant, et que ça, c'est un peu notre faute aussi, à fouiner le moindre spoil et la moindre rumeur sur les iPhone, on sait tout avant le début de la keynote. C'est pour ça qu'elles sont décevantes. Je pense que là, entre guillemets, nous, on va dire chroniqueurs, journalistes et blogueurs et youtubeurs tech, on est là à sortir dès qu'on a une info sur l'iPhone 8, on la donne. Et vous aussi, à vouloir absolument tout de suite des pronostics et des infos sur l'iPhone. Normal, je peux vous l'annoncer déjà, hein, la keynote va être décevante. Ça, c'est un des seuls trucs dont on est sûr, c'est que la keynote va être décevante et que l'iPhone sera probablement trop cher. Ça, c'est les deux trucs que je peux vous garantir. Ça, c'est certain qu'il y aura.
On en avait discuté, hein, mais s'ils avaient vraiment voulu éviter qu'il y ait toutes ces rumeurs, ils auraient pu, enfin, ils l'ont déjà fait, hein, quand ils veulent présenter un nouveau produit,
oui.
Quand ils veulent pas que ça fuite, ça ne fuit pas.
Non, mais... En même temps, ils sont à une telle taille industrielle, tu te rends compte quand même qu'il faut briefer tous les réseaux de distribution, etc. C'est quasiment impossible qu'on... En tout cas, la forme hardware du matos et tout ça, on la connaîtra toujours avant.
Et donc toi, tu dis que ce qu'on a vu là, c'est vraiment...
Ah oui. L'iPhone 8 aura cette forme-là. Les surprises viendront peut-être d'autres choses, mais on verra le 12. On verra le 12.
On enchaîne peut-être sur le prochain article. Alors, avant le prochain article, on va vous faire une petite annonce, c'est-à-dire que la semaine prochaine, on sera au Pays Basque. Petite semaine en famille. Et on profitera mercredi pour être à Saint-Jean-de-Luz, donc Saint-Jean-de-Luz-Cibourg, Saint-Jean-de-Luz, pour boire un verre avec vous.
On se fait un apéro, un take a drink.
Exactement, on va se faire un petit apéro. Ça ne va pas durer jusque tard dans la nuit, parce que c'est en pleine semaine. Mais on va se faire un petit apéro pour rencontrer les personnes qui seront disponibles le mercredi 13, du coup, le lendemain de la keynote Apple, donc on pourra en discuter. Et voilà, si vous êtes sur place ou pas très loin et que vous êtes disponible ce soir-là, n'hésitez pas à nous le dire. On n'a pas encore de lieu pour le moment.
Si d'ailleurs vous avez un truc à nous conseiller à Saint-Jean-de-Luz,
je crois que Mathieu nous avait conseillé un bar.
Il nous avait conseillé un bar. Le truc, c'est qu'il faut un bar, effectivement, on ne sait pas combien on va être, hein, comme quand on l'avait fait à Cannes, donc... Faut pas un bar trop petit et trop étroit où faut réserver les places et tout ça. Donc voilà, Saint-Jean-de-Luz, mercredi de la semaine prochaine. Ça sera le lendemain d'ailleurs de la keynote, donc on pourra parler. Alors, l'iPhone, alors qu'est-ce que t'en penses?
Alors, tu le commandes, tu le commandes pas? Voilà pour la petite annonce et on vous tiendra au courant. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'interruption dans le TechScope. On va faire en sorte.
On va voir avec le réseau. Ouais. Normalement, on devrait pouvoir faire tous les TechScope, mais je préfère prévenir si jamais le réseau est trop mauvais et il n'y aura pas de TechScope la semaine prochaine. Mais je vais tout faire, quitte à chercher de la 4G avec mon smartphone à 8h du matin dans les champs. On va essayer, effectivement on n'a pas pu mettre en place un système de remplacement vraiment efficace. Peut-être qu'on aura un ou deux TechScope remplacés, je suis en train de voir ça. Si, d'ailleurs je lance une bouteille à la mer, si l'un d'entre vous se sent prêt à faire un TechScope, qui me contacte. Voilà,
un TechScope bucolique, tout à fait, Damien.
Donc, si l'un d'entre vous se sent prêt, qu'il me contacte.
Voilà, on enchaîne avec le prochain article. Et je voulais vous parler un petit peu de Twitter. Twitter est un peu sous le feu des projecteurs dernièrement, avec une mise à jour de ses conditions générales d'utilisation qui fait parler pas mal d'elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, ça a porté la lumière sur les conditions générales d'utilisation en entier, et pas uniquement sur les nouveautés. Et du coup, pas mal de personnes se sont offusquées sur des articles qui étaient déjà présents avant et qui n'ont pas bougé. Donc voilà, pour vous faire un petit peu un résumé de ce qui a changé, c'est notamment Twitter qui se protège sur sa responsabilité et sur comment ils vont par exemple bannir du contenu ou bannir des comptes, etc. et qui ne seront pas forcément responsables de tout l'usage de Twitter ou du service que vous faites, etc. Qu'après, ils vont faire en sorte de prévenir les utilisateurs au moins un mois à l'avance quand il y a un changement de condition générale d'utilisation. Donc là, par exemple, quand j'ai ouvert mon application Twitter, le premier écran que j'ai eu, c'est « Nous avons fait une mise à jour des conditions générales d'utilisation. Est-ce que vous souhaitez les consulter ?» etc. machin. Donc c'est plutôt clair. Et du coup, ça invite les personnes à réellement prendre connaissance des conditions générales d'utilisation, ce qu'on fait vraiment pas souvent. Et du coup, ça a apporté la lumière sur un paragraphe qui a gêné pas mal de personnes. Donc là, je vais pas pouvoir voir le truc.
Ne marche pas ?
Bah non, parce que voilà, ça marche pas jamais très très bien. Donc on va l'ouvrir dans Safari.
Bah voilà.
Ça ne fonctionnera pas non plus parce qu'en fait, je n'ai pas internet, voilà.
Merde, t'as perdu.
Voilà. Non, mais on a un vrai problème de device qui se fait
chauffer. Je ne suis pas sur la même connexion que toi, donc peut-être que moi ça va marcher.
Non, mais j'essaie.
C'était quoi que tu voulais ouvrir ? C'était ce tweet-là ? Marion ?
Voilà, là ça fonctionne.
Bon.
Voilà, on a un vrai problème de conflit de device là. On est trop connecté chez Naotech.
On a trop d'IP.
D'IP hein, pour les autres. Mm. Par exemple, le paragraphe qui a fait grincer des dents, c'est You agree that this license includes the right for Twitter to provide, promote and improve the service and to make content submitted to or through the services available to other companies, organizations, or individuals for the syndication, broadcast, distribution, promotion, or publication of such content on other media and services subject to our terms and conditions for such content use. Such additional uses by Twitter or other companies, organizations, or individuals may be made with no compensation paid to you with respect to the content that you submit, post, transmit, or otherwise make available through the services. Mmh. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire?
Merci beaucoup Baptiste.
Merci pour vos chaînes, mes compétences en photo et vidéo ont doublé et c'est un plaisir de...
Il y a Whisky qui vient de
lire la communauté sur le Slack. Alors Whisky, t'as fait un rentre-dedans Baptiste.
Whisky a défoncé le trépied là, en sautant.
On a un peu trop remué pour lui. Merci, un grand merci à toi pour ton soutien. Donc voilà, pour traduire un petit peu ce que ça veut dire là, en termes de condition, en tout cas le paragraphe qui a attiré l'œil de certains journalistes, de certaines personnalités sur Twitter, c'est en gros, lorsque vous publiez du contenu sur Twitter, ce contenu peut être repris et utilisé par d'autres compagnies pour promouvoir le service, pour promouvoir la plateforme ou autre chose. En gros, c'est du fair use, c'est-à-dire, pareil, on a ça en France, c'est la possibilité d'utiliser du contenu produit par quelqu'un d'autre pour en parler dans une limite raisonnable d'utilisation, hein, c'est le fair use. Et voilà. Et là, des personnes se sont offusquées comme quoi c'était pas possible de ne pas rémunérer les personnes si on utilisait leur contenu. Certains font de l'original content qu'ils postent sur la plateforme. Ma première réaction, c'est en gros, si tu veux pas que ton contenu soit utilisé quand tu le postes sur cette plateforme, n'utilise pas cette plateforme. Et la plupart des services d'hébergement qui mettent à disposition du contenu sur lequel vous et moi pouvons poster du contenu, à ce genre de clause, que ce soit Instagram, soit Facebook, que ce soit YouTube, que ce soit Twitter, etc. Toutes ces plateformes ont ce type de paragraphe. Évidemment que si vous postez du contenu sur ces plateformes-là, à un moment donné, à n'importe quel moment, ils peuvent le réutiliser sans vous demander votre accord. Si c'est en public, si c'est en privé, si votre compte est privé, ça ne sera pas le cas. Mais si vous postez en public, vous partez du principe que vous mettez à disposition votre contenu aux autres. C'est comme sur Instagram, quand des personnes font des copies d'écran du réseau social Instagram et repostent votre post par la suite en vous mentionnant ou pas à leur bon loisir, et ben voilà, ça fait partie de l'usage de la plateforme et en tout cas, c'est pas un paragraphe qui est nouveau.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les réseaux sociaux, et d'ailleurs beaucoup d'autres trucs, font ça, parce que si jamais ils n'avaient pas ce type de clause, à chaque fois qu'ils relaient ou qu'on utilise même la plateforme pour relayer du contenu, les ayants droit pourraient demander de l'argent aux réseaux sociaux. Et vous imaginez bien que même un Facebook, un Twitter ne pourrait pas payer chaque ayant droit pour la diffusion. C'est la différence, par exemple, entre un YouTube et un Twitter. Ce n'est que des relais, en fait.
Mais même au-delà de la notion de paiement, c'est-à-dire que ça mettrait un frein énorme au partage de contenu sur la plateforme. Que ce soit de partager le contenu d'autres posts, du contenu extérieur posté originalement, enfin ensuite sur la plateforme, vous allez y réfléchir à deux fois avant de poster un article de Télérama sur Twitter, parce que vous n'allez pas savoir si ça tombe dans le Fair Use ou si Télérama, par exemple, va l'encourager, etc. Je cite ce site, mais voilà. Donc, c'est en effet, toutes les plateformes aujourd'hui ont ce paragraphe et cette notion de fair use. Encore une fois, si le compte est public. Si le compte est privé, ça ne tombe pas dans ce paragraphe. Donc voilà. Donc, un peu étonnant d'avoir des réactions un peu premier degré sur ces conditions générales d'utilisation.
C'est aussi un moyen de faire du buzz que de révéler des clauses qui existaient déjà d'un truc d'utilisation. De faire la grosse révélation sur Twitter. Je veux dire, le mec, il a été vachement retweeté d'avoir tweeté ça. Tu vois, c'est là où le système devient... Un peu véreux.
Je vous encourage en tout cas, si vous souhaitez en savoir plus et voir qu'est-ce qui a changé exactement sur ces conditions générales d'utilisation. Merci David, merci bonne rentrée à tous et à toutes sur Naotech.
Merci pour ton super chat.
Donc si vous souhaitez en savoir plus et voir exactement qu'est-ce qui a changé dans la précédente version des conditions générales d'utilisation et la nouvelle, on a un comparatif qui est mis à disposition, là vous l'avez dans l'article de TechCrunch, et très facilement vous avez les paragraphes qui sont mis en valeur, et donc vous pouvez les comparer, vous verrez en effet que ça n'a rien à voir avec le paragraphe qui porte à polémique aujourd'hui. Donc vous pouvez en effet très simplement, grâce à l'article de TechCrunch, trouver le lien pour pouvoir comparer les deux feuilles de Terms and Conditions. Voilà.
Voilà, voilà. Moi, je vais vous parler d'une histoire du sexisme ordinaire, hein, puisque effectivement, on sait qu'à la Silicon Valley, entre les histoires d'Uber, les histoires qu'il y a eu récemment avec Google et tout ça, il y a quand même un sexisme rampant, on va dire. Et preuve en est cette édifiante histoire de deux startupeuses, Penelope et Kate, qui ont lancé un site qui s'appelle WitchSci, qui en fait, alors juste pour la petite histoire, Etsy interdit la vente de tout ce qui est... marabouto spiritualité.
Merci Ludovic, merci à toi pour tout le live, pour tout le live de vendredi soir. Pour tous.
Ouais. Sur Etsy, t'as pas le droit de vendre des bougies thérapeutiques, des trucs pour lancer des sorts chez toi. Enfin, tout ce marché, on va dire, de la magie et ce genre de choses. Donc, elles ont eu l'idée, elles, de lancer un truc qui s'appelle WitchSci, qui est en fait tous les produits qui sont interdits par Etsy. Pour les artisans.
Donc c'est Penelope Gazin et Kate Dwyer qui ont eu l'idée de lancer WitchSci.
Ouais.
Alors, parce que je répète, parce qu'ils demandaient juste.
Ah, les noms de. D'accord. La start-up marche plutôt bien. Hein. En un an, elles ont vendu pour 200 000 dollars d'objets. Elle rémunérait donc les créateurs d'objets, puis c'est un système comme Etsy qui paye les artisans qui font à 80%. Elles ont même dégagé un petit profit sur leur start-up. Le problème qu'elles avaient, c'est qu'elles constatent que chaque fois qu'elles demandent quelque chose à un développeur ou un investisseur, ou ce genre de choses.
Ou un fournisseur. Hein.
Ou un fournisseur, elles ont des délais dans les réponses, et puis il y a une manière vaguement irrespectueuse quand même de leur répondre. Du type, les mails qui commencent « Ok les filles, j'ai travaillé sur ce que vous m'avez demandé », ce genre de truc, tu vois. Le côté un peu sympa, « Ok les filles », mais bon, ça les gênait un petit peu, et on peut comprendre, quoi. Quand tu as ta propre start-up, que tu fais travailler un fournisseur, après, si c'est un ami, tu peux être familier, mais tant que ce n'est pas un ami, il n'y a pas à avoir cette familiarité-là. Donc, du coup, elles ont créé un personnage qui s'appelle Kate Mann. On pourra voir le jeu de mots. Kate Mann, avec deux N, qui est le troisième cofondateur de la société et qui s'est mis à envoyer des mails aux fournisseurs, aux interlocuteurs, aux investisseurs, etc. Et là, c'est marrant, les mails ont pris une toute autre tournure. On leur répondait dans la journée. Les mails étaient beaucoup plus respectueux. Les mecs étaient beaucoup plus prêts. Ouais, ok, on va faire un brainstorm et tout ça. Alors que quand c'était les filles qui envoyaient des mails, les mecs disaient ouais, on verra ça dans une semaine, etc. Elles n'étaient jamais prises tellement au sérieux. Et à partir du moment où c'est un mec qui envoyait les mails, tout est redevenu sérieux, beaucoup plus dans l'ordre. Elles ont beaucoup joué justement avec ce nom. Alors, ce qu'elles disent quand même, c'est que les choses étaient quand même subtiles. Il n'y a pas un mec qui leur a dit « Non, mais passez-moi Kate, c'est le mec avec qui je veux parler. » Mais c'était toujours, quand elle postait, elle devait attendre plusieurs jours avant d'avoir une réponse. Alors que quand Kate avait une réponse, on lui demandait s'il avait besoin d'autre chose, d'aide sur un autre sujet. Donc les mecs étaient beaucoup plus prêts à travailler avec un mec qu'à travailler avec des filles. Et c'est effectivement affligeant d'en être là, quoi. Et bon, l'article continue parce qu'il y a d'autres exemples. Hein.
Non, mais c'est-à-dire qu'elles ont même poussé l'expérience plus loin. C'est-à-dire qu'elles ont vu, elles ont testé la tolérance à l'aspect irrespectueux de Keith. C'est-à-dire qu'elles lui ont fait annuler ses conf calls à la dernière minute, etc., jusqu'à ce qu'il disparaisse même complètement de la circulation. Et en fait, les personnes étaient. Les personnes étaient beaucoup plus tolérantes avec Keith, alors qu'il était complètement irrespectueux, alors qu'avec elle, il ne mentionnait jamais leur prénom quand il s'adressait à elle, ce genre de choses. Enfin, vraiment,
mais
on vit dans un monde où il y a vraiment deux poids, deux mesures, quoi.
Et c'est vrai qu'on en parle souvent dans l'émission, mais quelque part, le sexisme ordinaire, c'est un sexisme caché, mais qui est pervers, justement. Et beaucoup de sociétés, moi, dans lesquelles j'ai travaillé ou pour qui j'ai travaillé en tant que freelance, ils vont me dire, mais non, nous, on n'est pas du tout sexiste. Attends, on adore les femmes, quoi. Mais tu t'aperçois dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, dans les gestes, dans la manière d'être, que oui, il y a un sexisme rampant, en fait. Souvent caché, il n'est jamais déclaré. C'est très rare aujourd'hui, les sociétés où tu as vraiment un gros macho, qui dit « Ah non, je ne te parle pas parce que tu es une nana ». Mais ça va toujours être des petites phrases en réunion. Ça va être des manières de répondre à des mails. Souvent, les mecs, et moi le premier, je vous dis, le sexisme rampant, ça m'arrive aussi. On va écrire pas pareil parce que c'est une femme. Notre attitude.
C'est quelque chose qu'on voit pas souvent parce que l'homme et la femme font l'expérience de choses différentes. Et on l'a vu d'un homme qui a testé de mettre en titre de CV un prénom féminin au lieu d'un prénom masculin. Et il a vu une chute des réponses dramatique lorsqu'il envoie. Rien que ça, ce n'est pas normal. Et
ah,
c'est là
attends,
où.
Coupure.
Ah mince, il y a une coupure.
On est revenu ou pas ?
Makelga, Ludovic, vous mentionnez une coupure.
Est-ce que vous nous recevez ou pas ?
Coupure, Samuel nous dit encore.
Est-ce que vous nous recevez 1 sur 5 ?
Aïe, aïe, aïe. Tu nous vois ?
On nous voit, c'est mal.
C'est beau chez moi, Damien, qui nous regarde en
revenu, TGV. C'est revenu, 5 sur 5. Ok, bon. On continue. Désolé, hein, c'est indépendant de notre volonté, Il y a des problèmes de réseau. Mais je pense que ça vient plus du réseau que chez toi.
J'ai pas l'impression, parce qu'en fait, moi...
Non, mais hier soir, on avait quasiment tout éteint, et moi, j'arrivais même pas à me connecter.
Oui, il y a des fluctuations dans le réseau, mais là, on a bien vu que c'était mon iPad qui s'était fait virer du réseau. Donc oui, j'étais en train de dire, un des tests, c'était un homme qui avait mis en titre de son CV un prénom féminin au lieu de masculin, et il avait observé une chute dramatique des réponses, du nombre de réponses à ces demandes d'entretien, ce qui montre bien que mine de rien, il y a un vrai traitement différent en fonction de si vous êtes un homme et une femme, et on peut se poser la question de l'intérêt d'avoir des curriculums anonymes et des candidatures anonymes pour les postes, car c'est vraiment, des fois, ça limite l'embauche, il y a un biais, on a tous des biais hein, de toute façon dans la société, la manière dont on est élevé, le contexte dans lequel on évolue au quotidien, mais il faut en avoir confiance, il faut en avoir conscience, pardon, oh, le lapsus, pas confiance mais conscience. Et il faut justement adapter ses comportements pour lutter contre ces biais-là et avoir une expérience égale pour tout type de personnes avec tout type de contexte différent. C'est très important et l'évolution de la société en dépend.
Tout à fait, tout à fait. Puis surtout, moi, ça me froisse et quelque part, ça me vexe qu'on en soit encore là en 2017. Je pensais...
Sinon, on ne va pas y arriver. On va peut-être passer en...
Alors, on va refaire, si vous nous entendez, on va refaire une coupure. Je vais basculer en 4G parce que ça n'a pas l'air de marcher. Alors, attendez. Yep. On coupe et on revient.
Ça y est. Si, c'est bon. Même la 4G râle.
Même la 4G. Vous êtes en direct, ça y est. Est-ce que vous nous recevez, là?
Alors, on est un peu de travers.
Ouais, on est un peu de travers, mais bon, l'important, c'est est-ce qu'ils nous reçoivent.
Hop, comme ça. Il est placé dans le support.
5 sur 5, c'est bon, on nous reçoit. Vas-y, enchaîne, je m'occupe du cadrage.
Alors, désolée pour ces petites interruptions, problèmes techniques, on va y arriver. On reprend avec Tinder. Je voulais vous parler de la dernière mise à jour de Tinder. Et je me moquais un petit peu gentiment de vous en vous disant que si je vous posais la question qui utilise Tinder dans la chatroom, il y en a plein qui allaient me dire non, moi j'utilise pas Tinder, etc. Donc attention. Attention parce que pour ceux qui sont sur Android, ça se voit si vous avez Tinder. Hein. Moi j'ai eu le coup avec Jérôme qui s'est grillé comme ça.
Je me suis fait choper. Oui, mais moi c'était pour la science. Je suis passé sur E égale M6 et j'ai parlé de Tinder et d'un autre truc. Donc, il fallait bien que j'essaye,
bien
normal.
Sûr, bien sûr.
Je fais ça pour la science.
C'est de la veille qu'on fait, évidemment. Tinder a fait une dernière mise à jour. Donc, on sait en ce moment que Tinder essaye de trouver un moyen pour monétiser son produit. Les précédents essais n'avaient pas vraiment fonctionné, mais le dernier là qui est paru cette semaine aux États-Unis pour la version iOS uniquement pour l'instant, s'avère plutôt payante comme on le dit, puisqu'il propose un abonnement par mois mensuel à $14.99, donc à peu près $15 par mois, donc c'est quand même pas rien, hein, $15 par mois. Et en gros, vous allez me dire, mais ok, $15 par mois, mais pour faire quoi? Eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir voir, accéder au profil des personnes qui ont liké votre profil. Donc, en effet, avant Tinder, si vous vous rappelez un petit peu du principe, vous pouviez voir les personnes qui vous likaient uniquement si vous les likez en retour. Donc, s'il y avait un crush mutuel, en fait. Là, vous n'avez même plus besoin d'avoir un crush mutuel si vous pouvez voir toutes les personnes qui ont craqué sur votre profil en likant votre profil. Donc, ça montre un petit peu,
vanité,
ça peut augmenter.
Tout est vanité.
Non, mais ça peut augmenter aussi les matchs.
Regarde le nombre de fois qu'on a des trucs sur Facebook. Découvrez qui consulte votre profil. Et
sur LinkedIn, plutôt.
Oui, ou sur LinkedIn. Non, mais LinkedIn, on a déjà ça. Mais... Oui. Moi, le premier, j'adore regarder qui a regardé mon profil.
On est tous
et curieux. Sur Facebook, tu peux pas. Hein, c'est normalement... Enfin, mais t'as
moi, je ne l'ai jamais vu sur Facebook.
Non, mais sur Facebook, tu peux pas. Mais il y a toujours des petits malins qui font des trucs. Grâce à mon appli, tu vas découvrir qui regarde ton profil sur Facebook. Ça répond à un besoin humain de notre ego d'aller regarder qui nous aime.
Et c'est quoi Tinder? Je drague à l'ancienne et en virtuel. réel. Bah, si tu me poses pas la question, tu viens de répondre toi-même à ta question.
Et donc, c'était évident que ça allait cartonner, ce truc-là. C'était évident parce que ça répond à un élastique qu'on a dans notre... Enfin, c'est...
Ça place l'ego.
Ah, mais non, mais surtout, ça nous rassure. On est tous avec cette angoisse. Aime-moi, aime-moi, qui est-ce qui m'aime, qui est-ce qui m'aime.
Non, mais ça va.
Du coup, soit on fait des lives sur YouTube, soit eh ben, tu payes 15 euros sur Tinder.
Je vais l'arrêter. Je sais pas ce qu'il a, il a mangé du lion ce matin. Au-delà de l'aspect flatter l'ego, se rassurer parce que des personnes ont craqué sur le profil, etc., ça va aussi augmenter les chances d'avoir des matchs sur Tinder, donc ça va aussi dans le sens de ce que promet la plateforme. Voilà, quand vous allez voir que quelqu'un a craqué sur vous, vous allez peut-être reconsidérer à deux fois son profil avant de ne pas liker, par exemple. Et donc, ça va peut-être augmenter aussi les chances de match. Donc, cette offre s'appelle Tinder Gold. Et du coup, ça a permis à l'application de se hisser en haut des têtes, en tête des classements de l'App Store. Et donc, elle est devenue une des applications les plus téléchargées suite à la mise à jour. Et très probablement, cette offre payante devra arriver très prochainement sur le Play Store, évidemment, sur la version Android de l'application, et peut-être au cours de l'année se déployer dans d'autres pays. Voilà, donc là c'est un premier test qui est fait aux États-Unis.
C'est assez exceptionnel qu'une app qui est quand même ancienne, ça a quoi Tinder, ça a 4-5 ans, repasse en haut du classement des applis les plus téléchargées, quoi. Ça veut bien dire qu'ils ont trouvé une nouvelle poule aux œufs d'or avec cette histoire de découvrir qui vous aime, quoi.
C'est tout à fait. Après, ils ont quand même une base d'utilisateurs. C'est pas parce que on n'en entendait plus tant parler que ça qu'elle n'était pas utilisée.
Mais je pense que ça a fait revenir pas mal de gens parce que c'est rétroactif. Tu peux voir qui t'a aimé. Si tu payes tes 15$, tu peux voir qui t'a aimé pendant tout ton historique Tinder. Donc, il y en a qui re-téléchargent l'app.
Ouais. Non, mais c'est très malin de leur part.
Je vais peut-être me la remettre, moi, pour voir qui m'a liké pendant mon expérimentation. Non, je crois pas que je vais le faire. J'aurais pas dû le dire. Je suis con, hein.
tu es un homme libre.
Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, mais tu paieras les conséquences.
Bah, donc, assumer tes responsabilités.
J'adore ce truc. On fait ce que tu veux, mais attention, hein, choisis bien.
Eh, mais tu veux nous parler de quoi?
Au lieu de dire des conneries.
Exactement. Hein,
moi, je vais vous parler de KFC. KFC, le KFC en Chine. Et oui, parce qu'en Chine, ils font frire le poulet aussi dans les KFC. Mais ils font mieux que ça. Ils font mieux que ça. Vous pouvez maintenant aller dans un KFC sans votre porte-monnaie, sans argent, sans votre carte bleue, sans rien du tout. Vous présenter à la borne, dire en chinois... Je voudrais des super hot wings. Je ne sais même plus ce qu'il y a au KFC. Ça fait longtemps que je ne peux aller au KFC. Bref, vous faites votre commande KFC et vous faites un sourire à la machine et boum, vous avez votre nourriture.
Donc, tu payes avec un sourire ?
En fait, tu payes avec un sourire. Ça, c'est le titre putaclic. Tu payes, en fait, avec la reconnaissance faciale. C'est l'application, effectivement, de la reconnaissance faciale. Mais là où cet article est intéressant, à 8 jours de la keynote Apple et des rumeurs sur la reconnaissance faciale des iPhone 8 qui remplacerait peut-être la reconnaissance par empreinte digitale, ça irait dans le sens où la reconnaissance digitale, notamment avec un moteur 3D, parce qu'on sait qu'en 2D, comme Samsung l'a fait, une simple photocopie
suffit. Monsieur Robert, ça marche avec une photo sur le visage.
Oui, mais ça, c'est chez Samsung. Là, en gros, c'est de la reconnaissance faciale couplé avec un truc 3D,
c'est-à-dire qui est voilà,
et offrirait un niveau de sécurité d'après certains experts qui serait supérieur à l'empreinte digitale. La preuve en est, parce que je pense pas qu'une chaîne comme KFC mette en place un système de borne qu'on puisse hacker avec la. Tu mets la photo de ton patron et tu manges à l'œil pendant un an. Je pense que voilà, ils ont dû effectivement sécuriser un petit peu le système. C'est assez intéressant de voir justement comment ça va évoluer. Est-ce que la reconnaissance faciale va devenir la nouvelle imprimante digitale? Est-ce que bientôt, quand on ira à la police, on vous mettra l'encre bleue sur la gueule et on vous demandera de mettre votre tête pour... Je dis n'importe quoi. Marion enchaîne parce que je crois que j'ai pété un plomb.
Ok, bon, on enchaîne. Donc toi, tu parles de nourriture, et ben moi, j'ai parlé de boissons, comme ça, le repas est complet. On va parler évidemment de Juicero, cette start-up de la Silicon Valley qui a fait fortement parler d'elle, car ça a été la meilleure arnaque de l'année, un petit peu, hein, vu que ce sont ces fameuses machines qui vont presser le jus livré déjà dans des sachets, déjà pressé, et qu'il y avait uniquement la pression de la machine qui pouvait déclencher la délivrance du jus dans son verre, etc. Et bien en fait, on s'est aperçu que juste presser le sachet avec les mains, ça pouvait fonctionner de temps en temps avec certains sachets. Donc en fait, la machine était complètement useless. Déjà, essayer de comparer une machine Nespresso avec une machine à presser des jus de fruits, ce qui n'est même pas presser des fruits. Hein, il ne s'agit pas là de mettre des fruits.
Oui, c'est pas des fruits frais.
Et frais et de les presser, etc. pour en faire un
jus. C'est une poche de jus.
C'est
quoi.
Juste des recharges de jus que vous achetez, que vous mettez dans la machine et vous faites sortir le jus, quoi. Enfin, déjà.
Oui, c'est. Et en fait, ils avaient conçu un système de buse pour sortir le jus, qui faisait que tu étais obligé, d'après eux, d'utiliser la presse pour que le jus sorte. Donc, autant une capsule Nespresso, tu as quand même besoin de l'eau et de la pression de la machine Nespresso.
Il y a un mélange chimique, c'est-à-dire avec la pression, etc. Il y a une vraie transformation du produit grâce à la machine. Ici, c'est du bullshit. C'est-à-dire qu'au lieu de vous vendre le jus en briques, ils vous le vendent en sachet et en plus, vous devez payer la machine super cher derrière.
Ça aurait pu être une machine Apple. Hein.
Donc...
J'adore faire mon troll.
Voilà, donc autant vous dire, on en avait déjà parlé, on a déjà parlé du fait que c'était vraiment un symptôme du bullshit, hein, de la surenchère, du n'importe quoi de la Silicon Valley, où on essayait de faire tout passer pour une innovation incroyable alors qu'on n'en a pas besoin ou que ça ne sert à rien. Ben voilà, Juicero, donc du coup, arrête de commercialiser ses produits, propose même un remboursement du produit, donc ça c'est plutôt bien. De leur part.
Ils se sont fait quand même méchamment allumer, quoi.
Mais à raison, à raison. Là, pour le coup, on va pas remettre en cause ça. Donc, c'est fini pour l'aventure de la start-up, et tant mieux. Et là où ça risque d'être dur, et j'y pensais tout à l'heure, c'est pour la carrière des personnes qui ont monté cette start-up. On va s'y reprendre à deux fois avant de...
Bah, disons que sur LinkedIn, ils ne vont peut-être pas marquer Juicero, quoi.
Ouais, mais je pense qu'on les aura épinglés au niveau des...
Par contre, si tu marques habilement, tu dis « j'ai trouvé le moyen, en mettant la pression à des clients, de faire sortir de l'argent tout seul », ils pourraient mettre ça parce que c'est un peu le principe. Hein.
Ouais, mais voilà, là ils se sont bien affichés et ça sera compliqué de leur refaire confiance en tant que entrepreneur, quoi.
Ouais.
C'est ça que je veux dire.
Je vois des gens qui font rapport. Les machines à bière, les machines à vin et tout ça, c'est quand même un peu différent parce qu'il y a quand même une transformation. Là, c'était vraiment le jusqu'au boutisme du n'importe quoi. On avait juste besoin d'une machine pour presser un sachet dans lequel le produit était déjà fini, en fait. C'est là où ça devenait complètement absurde. Les machines à bière, c'est pas tout à fait pareil. Et les machines à vin non plus. Hein. Il y a quand même une transformation du produit. Ou les machines à soda, ou ce genre de choses. Moi, je vais vous parler aussi d'un truc scandaleux. Et vous n'êtes peut-être pas forcément au courant. Le marché noir autour des vérifications Instagram. Vous l'avez peut-être remarqué sur Instagram. Ah ouais, là, je vais troller, je ne vais pas me faire que des amis. Mais je ne citerai pas de nom, d'ailleurs. Vous le savez, le marché des vérifications, qui existe d'ailleurs sur Facebook, Twitter et Instagram, c'est la fameuse virgule bleue, compte officiel, compte certifié. Normalement, cette certification, elle est réservée pas forcément aux personnes les plus influentes ou qui ont le plus d'abonnés ou quoi que ce soit, mais c'est quand la plateforme juge qu'une personne est légitime et pertinente sur un sujet. En tout cas, c'est le cas chez Facebook et Twitter. Facebook et Twitter, eux, on peut aujourd'hui maintenant postuler pour avoir cette certification. Donc, tu peux envoyer un courrier à Twitter ou à Facebook pour demander la certification et après ils l'acceptent ou ils ne l'acceptent pas. C'est beaucoup plus opaque chez Instagram, il n'y a pas de canal officiel pour demander une vérification et a priori c'est eux qui décident. Oui, mais a priori, parce qu'en fait il y a un énorme marché noir autour de cette certification Et le prix va jusqu'à 15 000 dollars. Certains payent 15 000 dollars auprès d'employés d'Instagram qui font ça donc au marché noir pour avoir une certification. Donc, est-ce que ça veut dire que tous ceux qui ont une certification Instagram ont payé 15 000 dollars ? Non, parce que Instagram continue quand même à accorder des certifications par leur propre système qui certifie vraiment certaines personnes. Mais, alors, moi, je sais que j'ai plus beaucoup de temps pour... moi aussi, mon article est bloqué. Je veux pas jeter je veux pas jeter un voile de suspicion. Maintenant, dès que vous allez voir un compte certifié, c'est un salaud qui s'est payé le compte certifié. D'ailleurs, c'est pas un salaud, il profite du système. Bon, il entretient un marché noir, mais sachez-le quand même. Dans le marché général des influents, il y a des baudruches. Voilà. Ça sera le mot du jour. Dans le marché des influents, il y a des baudruches. Il y a des gens qui ont payé pour être des influents, soit en se payant sur Twitter, il y a des gens qui se payent des followers, il y a des gens qui se payent des certifications. Pourquoi ils font ça ? Ben parce que ça rapporte de l'argent, il faut le savoir. Et cette notoriété, il y a des chaînes YouTube qui sont arrivées à la célébrité en se payant des views,
ou en se payant des certifications.
Ouais, je voudrais balancer des noms, mais je le ferai pas. Non, je le ferai pas, ça serait dégueulasse. Ça serait un moyen pour moi de me faire mousser sur le dos des autres. C'est pas mon genre. mais sachez-le quand même qu'il y a des gens dans le monde des influents, et ben c'est des baudruches. Point final.
Et puis on va terminer sur une note un peu plus positive avec un site moi qui m'a beaucoup plu ce matin. Je voulais vraiment vous le partager parce que je vous encourage à aller faire un tour, c'est assez fun et assez intéressant. C'est Google qui a mis à disposition les données de recherche de son moteur de recherche, donc Google, et qui a travaillé en collaboration avec Xakin GV, donc j'ai peur de mal prononcer son nom et je m'en excuse. Xakin qui est du coup un Interactive Visual Data Journalist et donc il va traduire de manière visuelle et décortiquer toute la masse de données que Google lui a mis à disposition sur une thématique bien particulière. Et là c'était analyser un petit peu les données concernant les recherches du type comment faire, comment réparer, comment how to, comment faire quelque chose. Et donc du coup c'est assez intéressant et en plus il les a regroupés par pays, etc. Il a essayé de faire des corrélations et donc il y a vraiment un site qui est plutôt ludique et bien fait graphiquement qui permet de lire ce type de données et ça montre aussi le potentiel que peut avoir la masse d'informations que récupère Google sur nos usages et les demandes faites, les queries rentrées par les utilisateurs, et ça montre un petit peu le potentiel que pourrait mettre à disposition Google pour en apprendre un peu plus sur nous. Donc voilà, Visual Essay by Xakin GV. Et donc c'est un site qui est consultable.
C'est vraiment chouette. Hein.
Ouais, c'est très chouette. Consultable sur desktop, mobile, etc. Hein, il est responsive. Et donc vous voyez, la thématique, c'est souvent on recherche comment réparer des toilettes, un évier, etc. Donc ça, c'est les recherches un peu plus classiques. Et le site, c'est par exemple, vous pouvez rentrer un pays en particulier. Donc là, il a détecté que moi, j'étais en France parce que mon navigateur est configuré en France. Du coup, il a configuré l'essai ou l'analyse de données par rapport à mon profil. Donc en France, on cherche « how to fix », donc « comment réparer those things », donc ces éléments dans la maison. Et donc, on a un petit graphique, un petit croquis, comme ça. Et donc, tout ce qui est en noir, c'est la taille des objets en France. Et tout ce qui est en pointillé rose, c'est la norme, c'est la médiane, c'est la moyenne mondiale. C'est pour traduire, la médiane, c'est la moyenne mondiale. Et donc, on voit par exemple qu'on cherche plus souvent à réparer les fenêtres, les portes, les toilettes, la machine à laver, les murs, que dans le monde. Bah, on a une recherche supérieure, par exemple, on répare moins souvent, on cherche moins souvent à réparer nos lumières, par exemple. Ça, c'est intéressant.
L'électricité, de toute façon, ouais, en France, on n'aime pas toucher l'électricité. Je pense qu'il y a le côté électricité d'Angers qui est bien plus passé.
Bah, si, pourtant.
Ah, si, l'électricité, ouais, mais les pas prises, les lumières. D'accord, les prises, ok. Oui. Moi, j'ai rien dit.
Comme quoi, hein, ouais, voilà. Ouais. Et donc, du coup, après, on a carrément une carte du monde. Donc là, vous pouvez voir un petit peu la découpe du monde. Vous reconnaissez l'Afrique, etc. Et l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Sud. On n'a pas vraiment trop de données sur les États-Unis. Et donc, ça affiche qu'est-ce qui est le plus souvent cherché en termes de réparation dans les pays. Donc, on remarquera qu'en Europe, Europe de l'Est, c'est souvent les lumières. Sinon, on est dans le nord de l'Europe sur tout ce qui est plutôt machine à laver, même plutôt en Russie aussi. Et tout ce qui est plutôt pays chaud, donc plutôt seconde moitié du monde, Afrique, etc., c'est le frigo.
Ah, le frigo et la clim, ouais, j'imagine.
Voilà. Donc ça, c'est assez, assez rigolo. Après, il y a d'autres données intéressantes à voir. C'est par exemple en termes de cuisine, quand on cherche à cuisiner des choses. Et donc souvent, on va chercher ce qui est le plus élémentaire. Donc comment faire bouillir un œuf, comment cuire un œuf, comment faire des pancakes, comment faire des French toast, etc. Donc là, c'est les recherches les plus réalisées aussi. Et puis après, on va avoir d'autres domaines, notamment en amour. Qu'est-ce qu'on recherche le plus souvent en amour?
Qu'est-ce qu'on recherche? Comment se faire pardonner quand on a dit une grosse connerie?
Non, cherche plus basique que ça.
Comment faire?
Genre, t'es jeune ado.
Comment emballer une nana?
Exactement.
Ah bah ouais.
How to kiss, évidemment.
How to kiss, bah oui. Hein? And après, how to French kiss.
Après, la deuxième recherche, c'est un peu plus sérieux.
How to fuck? Non.
Presque, mais le résultat de fuck.
How to have a baby?
How to get pregnant.
Ah ouais.
Voilà, donc...
Amour et conséquences.
Donc, on a ça, et puis on a aussi des choses un peu plus sérieuses, comme quand on est adulte, des recherches du genre how to make money, how to write a cover letter. Donc, how to make money, c'est le top, évidemment. How to write a resume, je pense qu'on a tous cherché des modèles de la démotivation, de CV, etc. Et après, des choses plutôt pratiques, comment...
Je crois qu'on a perdu la chatroom.
Est-ce qu'on a perdu la chatroom? Est-ce que vous êtes toujours là?
Je vois pas de message depuis un certain temps.
Comment faire un bon TechScope, ouais.
Vous êtes là encore, la chatroom? Oui, c'est bon, ils sont là.
Okay. Ils sont sages.
Oui, ils sont sages, hein. Ouais.
Par exemple, quelque chose de pratique quand tu vas à un mariage.
Comment s'habiller, enfin comment être élégant.
Plus spécifique.
Comment ne pas être plus belle que la mariée.
Qu'est-ce que tu portes quand tu vas à un mariage?
Un costume. Comment louer un costume? Comment attacher une cravate? Ouais, ou un nœud papillon.
Il est beau. Ouais. Comment attacher une cravate?
Putain, le nombre de copains à qui j'ai fait le nœud de cravate, parce que putain, les mecs savent plus faire des nœuds de cravate, quoi. C'est fou. C'est fou, ça.
Et après, on a par exemple des choses qui sont intéressantes à analyser dans la durée aussi. Par exemple, sur une année, c'est how to cook asparagus et qui va du coup avoir un pic. Donc, asparagus, c'est asperge. Et qui va avoir un pic justement à la période où il y a des asperges.
Des asperges, ouais,
donc
d'accord.
Ça, c'est très très saisonnier.
Et j'imagine que juste après cette période, c'est pourquoi mon pipi sent différent quand j'ai mangé des asperges. Ça doit être une des recherches les plus.
Non, mais un autre type de recherche qu'on retrouve souvent, c'est par exemple, alors nous, on ne l'a pas vraiment en France, mais « How to ask someone to prom ». Et donc, du coup, on a vraiment un pic, je vous montre le graphique parce que c'est assez rigolo. On voit vraiment juste avant le moment où on est censé faire la soirée prom, on a toutes les personnes qui demandent comment faire ça. On a aussi la traditionnelle comment perdre du poids
juste avant l'été.
Non, c'est plutôt, tu vois, en fin d'année, début d'année, pour tu sais, le nettoyage de printemps, quoi, où on doit se préparer pour l'été et le maillot de bain. Donc on a vraiment des choses très très saisonnières. Et après, on a des choses culturelles qui vont être liées, par exemple, à des buzz de séries, ce genre de choses. Donc, par exemple, How to do the cup song. Donc, ça, c'est lié à l'audition de Pitch Perfect dans le film.
Ah, d'accord.
C'est un film ou une série?
Non, c'est une série, Pitch Perfect.
Je suis pas sûre, il me semble que c'est un film. Ouais. Pitch Perfect et Pitch Perfect 2, je crois qu'il y en a deux ou un truc comme ça. Je suis pas experte dans le sujet, mais en tout cas, voilà, l'espèce de chanson faite avec les les cups. Voilà, il y a ce genre de recherche où il y a aussi les How to make loom bands, tu sais, les espèces de bracelets en élastique avec un espèce de métier à tisser pour les élastiques pour faire les fameux bracelets loom bands. Donc voilà.
Et avec Game of Thrones, il n'y a pas eu How to pet a dragon.
J'ai pas eu cette recherche là, mais le site est extrêmement bien fait, très très ludique et montre un petit peu le potentiel. Donc là, vous voyez, c'est la référence à la cup song, le pitch perfect. Voilà, voilà. Vous ne parlez même pas de Netflix qui a enfin mis des films Marvel en France.
On en a parlé la semaine dernière, ça, je crois. Je ne sais plus.
Mais on parle souvent de Netflix, quand même. Ouais, vous n'allez pas nous reprocher qu'on ne parle pas suffisamment de Netflix. Donc voilà, si vous voulez rigoler un petit peu, et même de manière plus sérieuse, parce que c'est vrai que le site est très, très bien fait, mais c'est très intéressant de pouvoir analyser ce genre de données avec des sites aussi bien faits. Et ça promet de belles choses pour l'usage des données de Google. Et pouvoir en apprendre un peu mieux sur les spécificités culturelles, etc., sur nos usages. Ça sera intéressant.
Voilà, c'est la fin de ce TechScope. On vous remercie de l'avoir suivi, de l'avoir commenté avec nous. La chatroom a beaucoup commenté. On est encore désolé, même si ce n'est pas de notre faute, mais désolé pour vous, des coupures qu'il y a eu. Le nom du site, on nous demande que tu reprécises le nom du site.
Le nom du site, est assez rigolo pour ceux qui me suivent sur Twitter. Je l'ai tweeté ce matin, l'article.
Suivez Marion, Aïsa Design sur Twitter. Une bonne occasion.
J'ai fait n'importe quoi là. Ouvrir dans Safari. Et le site, c'est... How to fix a toilet. howtofixatoilet.com. Et entre chaque mot, un tiré. Donc, howtofixatoilet.com.
Voilà, voilà. On va passer un petit Q&A quand même. Il est 9h03, donc il ne va pas être hyper long, hein, parce qu'il faut que Marion, elle parte à son boulot et moi que je parte, je retourne au studio travailler aussi. Donc, on va prendre les questions.
Un petit pouce bleu si vous avez aimé l'émission.
Voilà. J'ai pas l'impression qu'il y ait de questions Platinium aujourd'hui.
Oui, il y a une vidéo qui est parue vendredi. Donc, si vous n'avez pas encore regardé, dis-nous sur quoi c'est.
Alors, c'est sur le Glyph. Le Glyph, c'est un support pour smartphone. Je recommence. Le Glyph est un support pour smartphone. Ça vous paraît un peu con de faire une vidéo là-dessus, mais allez voir pourquoi j'en parle.
Et franchement, pour moi l'avoir vu en vrai, avant qu'il décide de faire la vidéo, je vais dire, mais il est vachement bien ton support à smartphone. Je suis un peu jalouse.
Elle est un peu jalouse.
tu crois qu'on peut les acheter? Parce que toi, tu l'as vu en crowdfunding. Donc je sais
si,
pas
si. Si. Je l'ai mis parce qu'il y a le lien d'affiliation Amazon aussi.
Il faut que je m'en prenne un maintenant. Mmh.
Donc, ça vaut le coup. Ce que je dis dans cette vidéo, parce que j'étais le premier à utiliser des supports qui valent pas cher, mais j'en ai pété plusieurs, et quand tu penses qu'on met quand même des appareils à 600-800 € dessus, et que ça peut vite tomber quand tu fais des photos et des trucs, ça vaut le coup.
Là,
ouais, celui qu'on a, c'est ceux-là que je démonte et que je dis, il faut arrêter d'acheter ça. Ouais.
Je déteste. J'ai toujours peur de foutre en l'air le smartphone et qu'il vole, tu sais, dans la pièce.
Il faut que tu vois. J'ai fait des. Tu l'as pas encore vu la vidéo, mais
je
fais des ralentis où le truc vole le truc quand même. Je vous raconte quand même une anecdote. Avec Karina, on était en train de filmer les accidents, donc on reproduisait des faux accidents. Et je dis, maintenant, on va faire l'accident où je le mets et le pas de vis s'arrache. Donc, je dis, là, je te le fais avec un où le pas de vis n'est pas arraché, puis après, on prendra un où il est arraché pour faire le trucage, quoi. Et ben, je le mets dans celui, et le truc s'est arraché, et là, vous voyez le deuxième ralenti dans la vidéo, ça s'est vraiment passé comme ça, quoi. Le truc s'est arraché au moment où je l'ai mis, quoi. Donc, pour dire comme ça, ça craint.
Pas mal, pas mal.
Ouais. Ah, j'ai un colis qui arrive aujourd'hui avant 18h. Toujours satisfait, bêta iOS 11 sur iPad Pro, super stabilité sur l'iPad, sur l'iPhone un peu moins je trouve.
Est-ce que vous pourrez parler de la startup française Tempos SVP? Concept génial. Thibaut, est-ce que tu peux nous le mettre sur Twitter? Parce que
et
là,
puis,
on ne va pas s'en
souvenir.
Vous
pouvez acheter un espace petites annonces si c'est tu es de cette startup et tu veux qu'on en parle. On a un espace petites annonces, justement, avec des prix très doux pour les startups.
Ok, Florian nous dit qu'il va tester. Je reçois aucune notification de Dailymotion, c'est normal. Bah, il faut vérifier peut-être tes paramètres. Après, on a une politique aussi où on n'envoie pas 36 notifications dans la même journée si tu suis beaucoup de chaînes, de manière plutôt smart, un peu comme YouTube aussi. Hein. Toutes les applications font ça pour pas trop être omniprésent pour vous. Mais peut-être qu'il faut vérifier, ouais.
Marion, comme femme, as-tu déjà subi des discriminations dans un de tes boulots ?
Du sexisme, oui, évidemment. De la discrimination, tu sais, c'est compliqué pour avoir des preuves. C'est des choses déjà, enfin, pour s'en rendre compte, si on compare pas avec un homme, c'est compliqué. Moi, je te dirais, j'ai eu la chance de ne pas en avoir fait l'expérience, ou en tout cas peut-être à mon insu, mais je ne m'en suis pas aperçue. Après, il se trouve que voilà, j'ai eu affaire à du sexisme, ça c'est certain, j'ai pu l'identifier. Et maintenant, bah, je suis dans un climat de travail où, heureusement, on lutte contre ce genre de pratiques et on fait attention, on a tous conscience de ça et qu'on est content d'avoir de la diversité et on essaie de promouvoir plutôt la diversité. Et ce cadre de travail, du coup, est assez encourageant et optimal pour la progression de chacun.
Un test pour stabilisateur smartphone, ça viendra, j'en ferai. Le job de Marion chez Dailymotion, UX designer, c'est pas ça?
Ouais, designer produit, ouais.
Ouais. Une Battle XT2 GH5, ben j'ai pas de XT2, donc c'est pas prévu pour l'instant.
Ça rapporte combien les super chats par mois? Alors pour l'instant, je pense, Jean-Michel, c'est un peu trop tôt pour avoir une moyenne, parce que ça fait même pas un mois qu'on l'a mis en place, donc ouais. On n'a pas vraiment une moyenne, quoi.
Après, il y a une chose, je le dis, hein. Vous avez remarqué qu'on est hyper transparent sur les sources de rémunération de la chaîne. Par contre, les sommes, c'est quelque chose, j'estime, moi, que ça fait partie de la vie privée d'une société. Les sommes. Après, si vous voulez vraiment les sommes, il y a toujours des moyens de contrôler les sommes, si vous le voulez. Mais tu sais, c'est toujours l'exercice délicat. Quel est votre salaire? Quel est votre truc? Nous, on est hyper transparent sur les sources et vous pouvez estimer à peu près les revenus. Mais j'estime vraiment, et c'est quelque chose de fondamental pour moi, que les revenus d'une société, ça fait partie de la vie privée d'une société. Parce que ça peut être tellement mal compris, perçu. La plupart des gens ne connaissent pas les impôts. Tu vois, on le voit même quand on dit notre troisième palier Tipeee, il est à 3100 euros. Les gens, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est 3100 euros dans notre poche. Alors que c'est presque moins de la moitié. Tu vois, et t'es obligé de partir dans des explications, surtout en France. Donc, on ne vous fera pas des disclaimers des sommes du Super Chat, parce qu'il faut savoir que ces sommes du Super Chat, c'est un revenu qui va être déclaré, sur lequel on va payer des taxes, bien des sûr. Impôts. Donc voilà. Après, il y a des moyens de voir les chiffres d'affaires des entreprises, si vous voulez absolument le savoir, ou ce genre de choses. Mais pour moi, ça fait partie quand même de la vie privée des entreprises. Et les entreprises ont droit à une vie privée aussi.
Alors, on a peut-être raté des questions, du ouais. coup.
Jérôme, te penches-tu sur le full frame compact Pro Leica Q? Non, je me penche pas sur Leica parce que c'est beaucoup trop cher pour moi de me pencher dessus. Peut-être un jour. De toute façon, les appareils photo, on commence à en tester, mais on se sent pas encore 100% légitime là-dessus.
Vous utilisez quoi comme service de cloud payant? J'en utilise pas.
Moi, plusieurs. Enfin, je paye iCloud pour avoir 2 Tera. Je paye iCloud pour avoir 2 Tera, moi.
Oui, moi aussi.
Je suis à 10 euros par mois.
10 euros. Ah non, moi, je
Bah alors, t'as pas les 2 Tera.
Non, ouais, j'ai pas. On est d'accord, j'ai pas les 2 Tera. J'ai juste le premier palier qui est à 1 euro, je crois, un truc dans le genre. Et après, j'utilise plutôt Dropbox tous les jours, mais je le paye pas.
Tu le payes pas.
Je l'ai à la fois pour... J'utilise.
À quelle heure posterez-vous la rediffusion de TechScope? En fait, c'est YouTube qui décide sur la chaîne. Il calcule et puis il publie automatiquement. C'est pas très longtemps après le live.
Hein. Alors, mais où est Whisky? Il s'est barré tout à l'heure, donc je peux pas vous dire où il est exactement. Potentiellement sur cette chaise-là, là.
Florian nous dit qu'il adore notre émission et nous, on adore ton boulot, Florian. Allez sur le site de Florian, voir ce qu'il fait en photo
et vidéo.
Et vidéo, puis c'est lui qui a fait la vidéo sur Patrick, l'interview de Patrick Donc, allez voir son travail à Florian.
J'ai une question peut-être un peu compliquée pour les droits d'auteur, alors je vais peut-être la poser sur le Slack. Très
bonne
bien,
idée.
Le petit génie.
Ouais.
Shadow sert-il aussi à stocker des données?
Oui, enfin non, pas vraiment. C'est comme un ordinateur. Non, tu t'en sers pas comme un service cloud pour stocker tes données, c'est un ordinateur sur le cloud. Mais après, tu peux utiliser un service cloud à partir de Shadow, quoi.
Tu remontes moi.
Ouais, je sais plus où on en est là.
Moi, je vais payer 15 euros à Tinder pour savoir si Marion m'aime. Ah ben, je suis pas sur Tinder, hein, alors autant vous dire. Pourquoi ne peut-on plus vous suivre sur YouTube Gaming?
Ah, ah.
Michaelina,
ah,
salut.
Ben, je vais jeter un coup d'œil. Ouais. Je savais pas qu'on pouvait plus nous suivre sur YouTube Gaming.
Attends. Super bien, Marion. Ça permet plus de s'habiter à augmentation des parts de marché, égalité des hommes et femmes. Oui. Honor 6X, très bon. Ma question était de savoir, en fait, si ça ne prenait pas la place de Tipeee.
Ça, c'est une bonne question. C'est un problème sur lequel je réfléchis. Le problème que j'ai actuellement, c'est que les super chats, on les cite. D'ailleurs, on va les remercier, on va en profiter pour les remercier, les super chats du jour. Donc,
merci.
David, Ludovic et Baptiste, merci à vous. En fait, le problème, c'est qu'on cite les super chats et on ne cite pas les tipeurs. Or, quelque part, les tipeurs sont pour nous plus importants que les super chatteurs. J'aime pas classifier, mais que vous comprenez bien. Les tipeurs récurrents, ceux qui nous donnent 1 euro par mois, 2 euros par mois, plus, ça nous permet d'avoir de la visibilité sur le futur. Et moi, je n'embaucherai quelqu'un que sur les Tipeee et pas avec des super chats. Pourquoi? Parce que les super chats, c'est aléatoire. Je ne sais pas combien il y en aura le mois prochain. Donc, je ne peux pas prendre de risques alors que Tipeee me permet de faire une projection. Donc, on cherche un moyen aujourd'hui pour rétablir l'équilibre. Pour citer effectivement les tipeurs, autant leur donner au moins autant d'importance que les super chatters. Voilà, c'est l'idée.
Il est 9h13, je ne vois plus de questions dans la chatroom, donc on va peut-être vous souhaiter une excellente journée. On vous remercie de nous avoir suivis pour ce nouveau Techscope. Comme d'habitude, rendez-vous demain matin à 8h en compagnie de Jérôme pour avoir votre Techscope. Et puis, passez une très très bonne journée, une très bonne rentrée. Bon courage à ceux qui font leur rentrée ce matin. Et puis, à très vite.
Je réponds juste parce que Florian le demande et beaucoup l'ont dit. On ne peut pas mettre un carton en fin d'émission. En fait, que vous comprenez bien, les lives qu'on fait, on ne peut pas ajouter une vidéo dessus. On n'a pas... Ou alors, il faudrait que je la fasse sur l'iPad et que je vous le fasse défiler comme ça. C'est pas comme un live avec une régie où je pourrais intégrer une vidéo supplémentaire. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire. Allez, on se dit à demain. Bonne journée tout le monde. Ciao, ciao.